Le peuple de la mer. Troisième partie, chapitre 9. Et brusquement, ce fut la catastrophe. Le Pluviose, abordé dans les passes de Calais, coulait à pic avec son équipage. On attendait Florent dans 8 jours pour la noce à Petit-Pierre, et la mère Bernard raccommodait une paire de draps afin de coucher son gars, que déjà il était au fond, dans ce fuseau de tôle où l'on boulonne des hommes pour les entraîner à la guerre. La nouvelle n'arriva au village que 2 jours plus tard, avec l'écho de Paimbœuf. Zacharie la lut le premier dans son arrière-boutique et dit « Ah, mince !» en se passant la main sur le crâne. Il entra vite dans sa buvette où Clémotte, Ourtin, Vielle et Isaacar le mareyeur étaient attablés. Il leur tendit la feuille en criant le désastre. Vielle en fit à haute voix la lecture que les hommes écoutèrent avec gravité, un moment même après qu'il eut fini. « Je l'avais bien dit, des navires en fer !» clama Ourtin. « Tout de même, » fit Clémotte, « les Bernards ont de la guigne. » « Et ils savent point ?» demanda Vielle. « Sûrement qu'ils savent point !» Ils restèrent pensifs autour du journal. La fille à Zacharie, qui avait entendu, conta la chose à sa mère. Elles allèrent ensemble regarder Petit-Pierre, qui travaillait gaiement à l'atelier, et, sans rien dire, partirent bavarder dans le village. Quand Bernard sortit de chez lui, des têtes le guettaient aux portes. Il ne les remarqua pas et descendit vers le port rejoindre les vieux. Mais il n'y avait que le douanier de service bâillant sur la cale. Alors, il contourna l'abri de sauvetage et monta au 20e siècle. À son entrée dans la salle, les hommes se taisent, lui rendent à mi-voix son salut. Leurs poignées de main sont indécises et prolongées à la fois, et leurs yeux se dérobent. Bernard éprouve, à tous ces signes, une impression pénible, mais s'efforce de plaisanter. « Ben quoi, on complote dans les coins hein ?» Personne ne rit, et Clémotte, ramassant le journal sur la table, dit au brigadier « Mon pauvre vieux, t'as point de chance !» Alors tous parlent à la fois. « Pour sûr, c'est un malheur. Qui qu'aurait cru ?» Et puis, « T'as qu'à lire !» reprend Clémotte. Bernard a repoussé le béret de son front en sueur. Il saisit la feuille et la tient loin de ses yeux, qui faiblissent. Sa chemise lui colle au dos, toute froide. Et soudain, la feuille tremble au bout de ses bras, en clapotant, retombe, et il dit « Misère !» Les autres n'osent point le regarder, craignent de remuer, sont émus. On entend des coups de marteau résonner à l'atelier et la voix de Clovis qui chante. « Et le gars ?» interroge Bernard. C'est un vrai soulagement. Tout le monde parle de Petit-Pierre qu'on n'a pas voulu inquiéter, qui ne sait rien, qui travaille à côté. Mais déjà Bernard pousse la porte et l'appelle.
« Pierre ! Pierre !»
Il paraît en bras de chemise, la poitrine à l'air, éclatant de vie, avec du soleil derrière lui qui entre par la cour.
« Ton frère est mort, » dit Bernard. « Voilà !»
Le gars s'arrête au choc, fronce les sourcils et demeure stupide. Le brigadier s'écroule sur une chaise en murmurant
« Et la mère, et la mère !»
Des larmes roulent dans sa barbe, des larmes rares de vieux. Petit-Pierre lit le journal, les yeux écarquillés. La mère Zacharie et sa fille, revenues, font la demi-tête derrière une porte vitrée. Louchon entre.
« Est-il là, le père Bernard ? Parce qu'on le demande à la marine encore. J'ai idée qu'il y a du malheur. »
Il s'interrompt brusquement en voyant le vieux qui pleure, la face contractée. Mais Bernard crie.
« La marine ! Quoi, la marine ? Le gars est foutu ! Il est foutu !»
Puis, plus doucement, résigné, « Avec obéissance, il ajoute.
« Faudra y aller, puisqu'on demande. Tira, Pierre !»
Et il sort avec son fils en se cramponnant à son bras. Les hommes respirent, encore troublés par leur propre silence. Enfin, Clémotte risque.
« C'est un coup pour lui !»« Le quatrième gars, tout de même !»« Bon Dieu ! Je les sens tourner !»« Me faut une goutte !» dit Ourtin.
« Donne-en donc six !» fait Vielle à Zacharie. « Une pour chacun !»
Bernard était allé s'asseoir sur la plage, derrière une grosse bouée qui le dissimulait au village. Devant lui, il n'y avait que quelques casiers secs et tout de suite la mer, qui, vue de bas ainsi, semblait monter vers l'horizon. Elle remplissait l'espace jusqu'au ciel et pénétrait dans la terre. Les reflets de ces vagues étaient comme des yeux troubles, attirants, et tout le long du bord, son petit chant roulait dans les galets, ainsi qu'une vieille romance. Bernard la regarda sans haine et abandonna sa douleur dans la chanson. La mer était nue, souveraine, câline. Bernard était résigné, sans révolte. Il pliait sous le coup, sans phrase, contre la gueuse. N'est-elle pas là pour l'éternité? Et ne lui faudra-t-il pas toujours des hommes, comme à la vie? Il incriminait plutôt la chance et Dieu, et il avait peur quand il songeait à sa femme, ignorante encore. À la marine, petit Pierre reçut des renseignements. Comme on avait espéré renflouer immédiatement le sous-marin et sauver l'équipage, on n'avait pas prévenu plutôt les familles des victimes. Mais tous les efforts demeuraient vains. L'état de la mer ne permettait pas de mailler toutes les chaînes de relevage. Peut-être les hommes vivaient-ils encore, peut-être avaient-ils été noyés par le remplissage du navire. On ne savait pas. Ému, quand il songeait à Florent, petit Pierre s'intéressait à la catastrophe. La navigation sous-marine, l'abordage, les manœuvres de sauvetage sollicitaient son imagination. Il marcha vite au retour, en construisant des hypothèses. En haut du village, il rencontra son père qui montait au-devant de lui et sa pensée revint brusquement à son frère.
« Eh ben, on essaie de renflouer le bateau en le soulageant avec des chaînes. Il se paraît que les hommes vivraient s'il n'a pas rempli.
Hein » « Ah !»
Les Bernard descendirent sans plus parler, dépassèrent l'église, la maison d'école, gagnèrent l'usine, et les volets verts de leur maisonnette apparurent. Le père soupira bruyamment, s'arrêta et dit
« Je vais causer à la mer, moi. »
La bonne femme rapetassait toujours les draps dans l'embrasure de la fenêtre. Elle s'étonna de voir rentrer le gars en même temps que le père, avant midi.
« Qu'est-ce qu'il y a encore? On est venu te demander de la marine, mon Bernard. »
« Oui, pas grand-chose. Un accident sur le Pluviose, des hommes blessés.
Notre Florent ?»
Bernard s'accrocha au buffet à ce cri qui rompait son courage.
« Florent, oui.
Le bon Dieu n'a donc pas pitié de nous ?»
Elle demanda des détails et Bernard dut inventer toute une histoire de brûlure, d'hôpital, où il s'embrouilla lui-même, honteux de son mensonge, et de plus en plus saisi par le désir de tomber au cou de sa vieille en lui disant
« Il est mort, mort, notre Florent !»
pour pouvoir souffrir à l'aise, souffrir à deux. Tout de même, il tint son personnage les jours suivants et fut se renseigner quotidiennement à la marine. Le renflouage n'avançait pas. On n'avait aucun moyen réel de sauvetage. Des chaînes insuffisantes qui rompaient, des chalands de fortune qui remplissaient. On était réduit au marais qui soulageait l'épave pour l'approcher de la côte. Le soir, sous la lampe, la mère Bernard fit écrire à Florent, par petit Pierre, une longue lettre pleine de recommandations touchant l'obéissance au docteur, les soins, les imprudences. On l'attendrait pour la noce de son frère. Mais qu'il guérit d'abord.
Le brigadier n'eut pas la force de l'entendre jusqu'au bout, jusqu'aux demandes instantes de nouvelles, jusqu'au gros baiser qu'elle envoyait de tout son cœur, et il sortit errer dans le village obscur. La lettre fut brûlée en cachette. Surprise de ne pas avoir de réponse avec le temps, la bonne femme s'inquiéta et proposa d'envoyer Petit Pierre là-bas. « S'il t'est très mal tout de même, il peut déjà point écrire. Petit Pierre le ramènerait peut-être. »
« Oui, dit Bernard, faut que le gars parte, il le ramènera. »
Du moins, pensait-il, on aurait son corps à celui-là. On le mettrait au cimetière, là-haut, tout près de nous, avec une belle inscription et des fleurs sur sa tombe. Petit Pierre boucla son paquet sur le champ, en dissimulant mal la joie levée en lui et dont il se sentait tout honteux. Les départs lui donnaient de l'émotion, non à cause de ceux qu'il laissait, de la rupture de quelques attaches de la vie, de l'incertitude des voyages, mais parce qu'ils étaient la porte de l'inconnu, de l'aventure. Il s'en allait, les yeux de sa jeunesse vers l'avenir, sans se retourner. Et voici son premier grand voyage, jusque dans le nord, à Calais, dans les mers dont parlait Ourtin, différentes de la sienne. Bien sûr, c'était triste d'aller chercher le cadavre de son frère, Florent au col bleu, au pompon rouge, avec qui il faisait beau se montrer, mort maintenant, bêtement et sans gloire. Mais tout de même, il verrait du pays, des ports, des navires, des escadres, et il ne pouvait refouler la joie qui montait par intervalles du fond de son cœur, comme des bulles. Il mit sa vareuse dans son ballot, ses économies dans sa poche, s'arrangea avec Perchet pour traverser à Pornic, et s'en fut causé avec Cucassé afin de jouir de sa tournée à l'avance.
« Ah !» fit le boiteux, « tu pars pour Calais ? Moi, j'ai été jusqu'à Cherbourg.
C'est beau par là ?
Oui, les ports. À Cherbourg, la jetée fait ben une lieue.
Ah, mince ! » Ils suivirent chacun leurs pensées, sans parler, les regards fixes.
« Je faisais la côte, » reprit Cucassé, « en travaillant à la chaussure. J'espérais un embarquement.
T'as pas trouvé ?
Plus de 100 fois. Mais on voulait point de moi, à cause de ma patte folle.
Ah, si j'avais été charpentier comme toi,
ben, cordonnier, bon, bon Dieu !»
Le boiteux eut une grimace amère. Petit Pierre demanda,
« C'est bon, charpentier à bord ?
Je te crois,
pas foulé, bonne paix !»
Ils demeurèrent encore quelques instants silencieux. Puis, à son tour, Cucassé interrogea,
« Ça va, ton bras ?
Oui, j'ai plus mal.
Tiens, regarde un peu. »
Petit Pierre troussa la manche et découvrit un tatouage d'un beau bleu, l'inflammation disparut. La devise, quand même, se détachait nettement sous l'encre, les drapeaux s'éployaient sur le gras du bras. Cucassé le palpait d'un doigt connaisseur quand la mère Bernard surgit en appelant son gars.
« Tu penses seulement point à Cécile ? Elle est à pleurer chez nous !»
Petit Pierre protesta en rougissant et rentra derrière sa mère. À la maison, Cécile frottait ses yeux humides à plein poing devant la table où s'alignaient une miche, du beurre et du fromage. Elle sourit en voyant Petit Pierre, lui sauta au cou et devint bavarde.
« Mon petit gars, dit la mère, faut casser la croûte, car tu sais point quand tu mangeras après. »
Le ballot de Petit Pierre, enveloppé d'un mouchoir à carreaux, attendait là sur une chaise. Lui avait ses souliers neufs et sa casquette propre. Il mangea silencieusement, sous les regards des femmes attentives à le soigner. Le brigadier demeurait pensif, les bras croisés. À la fin, ils trinquèrent tous, sans dire leurs souhaits, ce qui les rendait plus unanimes et plus profonds. Perchet poussa la porte en plissant la baie de sa vaste carrure.
« Allons, le gars, il est temps, » dit-il.
La mère glissa le reste du fromage et du pain
dans la poche de Petit Pierre. Cécile l'attira dans un coin et lui tendit un foulard qu'elle tira de son corsage.
« C'est pour que tu m'oublies point, » dit-elle.
« T'es bête, pour 8 jours. »«
Sait-on jamais, » soupira-t-elle.
On s'embrassa. Perchet, gêné, sortit sur la route et tout le monde le suivit. Personne sur la jetée, pas de barque au port. Seul le ravitailleur du pilier qui démarre. Le temps était gris et la mer lourde, plus lumineuse que le ciel. Issachar visitait ses viviers et jetait les crabes morts qui grossissaient à mesure de leur chute dans l'eau claire. À bord du laissez-les dire, Petit Pierre se retrouva soudain. Il empoigna la gaffe, déborda le sloop et envoya le foc, tandis que la mer criait de la cale
« Épi, ramène Florent !»«
Sois tranquille, » fit Bernard, « il le ramènera. »
La barque s'engagea dans le chenal de terre, entre les roches du Martre Auger. Petit Pierre établit la trinquette, étarqua la grand-voile avec le matelot et para le flèche. La mer s'étalait comme un tapis transparente. Des mouettes planaient, puis se laissaient tomber à l'eau comme des balles pour pêcher. Au bout de la jetée, Cécile agitait son mouchoir sans discontinuer.